Bonjour. Ah, ça marche. Bonjour tout le monde, merci d'être venus nombreux remplir cette salle. Je ne vais pas parler tout de suite, je le dirai un mot après. Je vais inviter Marc Bergère, qui est président du comité scientifique du J-Surfiste, à venir dire un petit mot. Marc.
Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, mesdames, messieurs, donc, chers et chers collègues, alors comme président effectivement donc, alors, du conseil des partenaires, hein, moi, du GIS réseau donc Urfiste, hein, je suis donc particulièrement heureux d'ouvrir donc cette Gynéa du GIS réseau Urfiste intitulée donc Sciences participatives et communication scientifique. Hein. Comme celles et ceux qui me connaissent le savent, hein, je suis toujours heureux en général quand je suis parmi les urficiens et les urficiennes. Donc, alors l'occasion effectivement pour moi de vous rappeler aussi qui nous sommes, puisque c'est la commande qui m'a été donc passée, hein, de vous dire donc quelques mots sur c'est quoi donc le GIS, comment ça marche, depuis quand, etc. Alors, comme vous le savez donc sans doute, hein, pour la plupart d'entre vous, les urfis cultivent de longue date une culture de réseau qui leur permet depuis 1982 de couvrir le territoire national à partir donc de 7 points que je rappelle néanmoins pour mes et pour les néophytes, Bordeaux, Lyon, Nice, Paris, Rennes, Strasbourg et Toulouse. Les urfis ont une particularité, c'est que ce sont des petites équipes par la taille, mais des équipes donc, qui sont grandes par leur rayonnement. Hein, là aussi, je me répète, mais c'est important. Et si elles sont grandes par leur rayonnement, c'est déjà, et à commencer pour une bonne raison, c'est que les urfistiens et les urfistiennes ont compris de longue date que l'union fait la force. Et ces dernières années, effectivement, donc, deux structures sont venus donc renforcer encore cette culture de réseau. D'abord, depuis 2010, les 7 Urfis se constituent en association que j'appellerais association professionnelle, hein, car c'est bel et bien un petit peu sa nature et sa philosophie, hein, qui est la rue, l'association donc du réseau des Urfis, hein, qui est sous la présidence actuelle donc de Marianic Lebéchec de Lyon, et que je salue. Et puis, donc depuis 2017, et je reviens donc à ce pourquoi on m'a invité à parler, le GIS, la structuration, justement, s'est poursuivie encore avec la création donc d'un GIS réseau urfiste, qui a été renouvelé donc pour 4 ans et encore élargi donc en octobre 2020. Il compte aujourd'hui donc 15 partenaires, à savoir donc avec et autour du ministère, bien évidemment, les 7 universités de rattachement des urfistes et la rue, bien entendu, mais aussi donc les universités de Lille, de Paris-Nanterre, l'ENSIB, le CNAM et le CNRS, qui représente donc, qui est représenté donc au sein du GIS par l'INIST et par Humanum. L'objectif donc du GIS est clairement de rendre ce réseau donc plus visible au niveau national, voire international, tout en lui permettant donc d'élargir donc sa base par l'accueil de nouveaux partenaires, et notamment aussi par le biais donc d'appels à projets. J'y reviendrai donc tout à l'heure. De manière corollaire aussi, l'un des enjeux consiste à renforcer nettement son tropisme recherche, à affirmer son tropisme recherche, ou pour le dire autrement, à renforcer le lien qui existe entre formation cœur de métier des urfistes, hein, les urfistes sont les unités régionales de formation en information scientifique et technique, hein, et la recherche au sein des activités des urfistes. Hein. Donc le but était clairement, même si ça ne figure pas dans le sigle et l'acronyme de départ, hein, d'affirmer la vocation et le tropisme donc recherche des urfistes. Alors pour ce faire, donc, le GIS, dont le siège est aujourd'hui donc, à Strasbourg, est dirigé donc, par Sandrine Wolf, hein, que je salue également, donc, qui est présente dans cette salle, et il s'appuie donc, sur deux organes de gouvernance, le conseil des partenaires d'une part, que j'ai effectivement le plaisir et l'honneur de présider, et un conseil scientifique d'autre part, qui est sous la houlette donc, de notre collègue donc, Olivier Ledeuf, hein, qui est président du conseil scientifique, mais que je n'ai pas perçu, je n'ai pas le sentiment qu'il soit là donc, aujourd'hui. Alors, fort de cet enjeu recherche affirmé, vous l'aurez compris, le GIS lance désormais régulièrement des appels à projets. Le dernier, donc en 2022, était doté donc de près de 130 000 euros. Bon, c'est pas la mer à boire, c'est vrai, mais c'est quand même le double du premier appel à projet, dont Gabriel se souvient. Et cet appel à projet donc numéro 2 a rencontré un vif succès, hein, puisqu'on a eu donc 18 projets qui ont été déposés, dont 10 ont été retenus donc pour financement. Donc, effectivement, les choses donc, avancent. Alors, si nous restons sans aucun doute donc, éminemment et évidemment perfectibles, hein, nous pouvons néanmoins donc, nous féliciter de contribuer ainsi, comme il nous avait été demandé initialement lors de notre création, de contribuer à structurer une activité de recherche, à identifier et analyser des pratiques informationnelles et à développer des coopérations, des échanges entre partenaires et au-delà, car c'est bien cela aussi le but du GIS. Autre projet structurant qui témoignent, je trouve, de la belle vitalité de notre GIS. Le centre ressources compétences pour DataGouv, dont m'entretenait Gabriel Galezo il n'y a pas plus longtemps que les dernières minutes passées ensemble. Et puis donc le projet aussi Callisto, porté donc à la fois par le GIS, mais aussi par un autre réseau qui me tient à cœur aussi, pour ceux qui me connaissent, hein, qui est celui donc des CFCB, sans oublier donc l'INIST par ailleurs. Alors cette plateforme de formation et d'auto-formation créée en 2021 vise à valoriser l'offre de formation en ligne sur la documentation, les métiers des bibliothèques, l'information scientifique et technique et la science ouverte. C'est en gros le principe et la philosophie de cette plateforme. Hein, c'est clairement une fédération de ressources et un partage de ressources, hein, qui sont vraiment au cœur de cette initiative. Un point qui nous amène donc en ligne quasi directe, si je puis dire, avec le thème du jour, hein, les sciences participatives, à savoir la science avec et pour la société, qui constitue un axe particulier et plus qualitatif de la science ouverte, un axe qui bénéficie souvent d'une bonne acceptabilité et d'une forte adhésion des collègues. Du moins, la chose me semble-t-elle plus manifeste en SHS, comme dans mon établissement, par exemple. Alors, autour de cette thématique, ô combien donc importante, des rapports entre science et société, on s'interrogera, mais d'autres en parleront mieux que moi, sans aucun doute, dans cette introduction, sur les interactions réciproques et la façon dont cette ouverture de la science à la société pèse à la fois sur l'activité de recherche et ou sur la communication scientifique. Alors, c'est l'occasion néanmoins pour moi de remercier sincèrement et chaleureusement donc, l'ensemble des organisateurs donc, et organisatrices de cette journée, à savoir pour ce qui est des membres du comité scientifique, Raphaël Batz de Bordeaux, Gabriel Galezo de Nice, Rémi Joinville de Rennes, Marianic Lebéchec de Lyon, Anaïque Maé de Paris, Elsa Poupardin de Paris aussi et Guillaume Cyr donc, de Toulouse. Un petit mot également pour Mathilde Garnier, hein, qui me semble avoir beaucoup œuvré aussi pour la réussite logistique de ce regroupement, si j'en juge par les mails que j'ai reçus et auxquels je n'ai pas toujours répondu en temps et en heure. Donc, qu'il me soit beaucoup pardonné, si je puis dire. Donc, alors avant de terminer, un dernier mot aussi pour vous dire que l'histoire continue. Et ce n'est pas l'historien que je suis qui va vous dire le contraire. L'année 2024 va être marquée par un renouvellement de notre convention, dont le principe est quasi acté au point de vue ministériel, et aussi de nos instances. Ce sera aussi l'occasion donc d'accueillir, le cas échéant, de nouveaux partenaires. Aussi, s'il y a parmi vous des établissements ou institutions intéressés pour rejoindre le GIS des urfistes, eh bien, qu'ils n'hésitent pas potentiellement à y réfléchir d'abord, et puis à se manifester donc, ensuite. Dans la foulée de ce renouvellement, un nouvel appel à projet recherche sera sans aucun doute lancé à l'horizon donc, 2025, Eh bien, là encore, soyez donc attentifs et attentives, hein, pour lui réserver bien évidemment le meilleur accueil et y répondre si le cœur vous en dit. Dans cette attente, je nous souhaite donc une bonne journée, avec mes remerciements et mes encouragements également à l'ensemble des intervenants. Merci, bonne journée à toutes et à tous.
Merci Marc. Eh bien, je vais inviter maintenant Philippe Moreto à venir. Philippe Moreto, qui est... Mais si je le présente, je vais certainement dire une bêtise, comme je viens de faire, donc je vais laisser Philippe se présenter. Voilà. Philippe Moreto, chargé de mission sciences et société à l'Université de Bordeaux, entre autres mille choses.
Parfait. Bon, rassurez-vous, je n'ai que deux pages. Bon, bonjour à toutes et tous, chers et chers collègues. Bon, je voudrais tout d'abord vous, au titre de l'Université de Bordeaux, hein, je suis professeur à l'université et l'émission, tu viens d'en parler, je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Alors, j'ai appris un terme, hein, les urficiens, les urficiennes. C'est bien prononcé, j'espère. Je ne savais pas s'il fallait prononcer mieux le T ou pas. Et chers collègues, hein, j'ai regardé un petit peu par indiscrétion la liste en rentrant sur laquelle on a signé. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de collègues aussi, à la fois des établissements et d'autres structures qui participent à cette cohésion nationale. Et bienvenue à tous. Donc. Bon, le thème de cette journée qui a été rappelé par Marc, hein, autour des sciences participatives et de la communication scientifique, avec trois éléments importants, l'écriture, la publication et la valorisation. Bon, bien sûr, ce sont des thèmes d'actualité forte, J'avoue qu'hier soir, en essayant de réfléchir à mon intervention, j'ai travaillé, hein, tu vois, Raphaël, j'ai relu l'introduction qui me paraît bien résumer le contexte actuel. Hein. Marc en a parlé, mais sans trop paraphraser, je pense que une prise de conscience générale sur vraiment un besoin d'amplification de ce dialogue société, surtout en sortie de crise Covid, hein, on a vu beaucoup d'incompréhension avec le public, avec parfois des communications à la limite entre le politique et le scientifique. Et donc, on a vraiment œuvré pour faire comprendre ce qu'est vraiment la science et quelle est la méthode scientifique, je pense. Les pouvoirs publics, hein, et nos tutelles en particulier, le ministère, se sont emparés à juste titre de ces sujets. Non pas qu'il n'y avait pas autrefois des actions, des AAP, mais il me semble qu'il y a eu une espèce d'accélération au cours des dernières années. On a calé dans la loi de programmation de la recherche ce volet de dialogue sociétal. On a vu notamment le 1% géré au niveau de la recherche par l'ANR avec deux AAP sur les sciences participatives, plus des campagnes qui venaient sur les lauréats des projets blancs ANR 2018, 2019 et 2020, apporter une contribution pour mettre en place un volet de dialogue sociétal sur tous ces projets. Et également, bien sûr, on a vu arriver ce label « Science avec et pour la société », qui est un label qui est porté par le MESR. Donc on a eu jusqu'à présent deux campagnes, une campagne en 2021, une campagne en 2022. Une troisième campagne va s'ouvrir à la fin de l'année pour une remise des dossiers début 2024. Et finalement, ça sera la dernière campagne. Bon, on peut épiloguer là-dessus, on peut dire ce qu'on en veut. Finalement, il n'y a eu que 21 établissements labellisés sur la première vague, les deux premières vagues, et on espère au final avoir à peu près 35 établissements labellisés au final. Donc, bon, on a, dans ce cadre-là, on a tous bien conscience des enjeux, que ce soit en termes de diffusion de la culture scientifique, de l'acculturation, surtout de nos jeunes générations. Ça, c'est un élément extrêmement important. On doit s'attaquer à des problèmes d'inégalité, que ce soit des inégalités sociales, des inégalités aussi territoriales, et même des inégalités de genre, soyons conscients de tout ça, et parfois des inégalités qui se cumulent quand on est une jeune fille qui est sur un terrain, qui est sur un territoire qui est très éloigné de nos microcosmes académiques et de nos grandes métropoles. Finalement, on cumule ces éléments-là qui se traduisent parfois par un peu d'autocensure, et c'est fort dommage. Donc on va essayer d'œuvrer sur ces sujets-là. Donc nous sommes directement concernés à l'Université de Bordeaux, puisque nous avons été labellisés en 2022, donc juste un peu avant l'été 2022, donc on est à un an après. Juste un petit focus, on va dire, c'est plus qu'un point, c'est la région Nouvelle-Aquitaine est on va dire un élément un petit peu singulier dans la carte en France, puisqu'on a 5 établissements sur les 6 universités en Aquitaine qui sont labellisées. D'ailleurs, nos collègues des autres universités se posent des questions. Il ne reste plus que l'université de Bordeaux-Montaigne qui va postuler pour la dernière campagne. Et j'espère que le réseau qu'on a commencé à monter au niveau de ces établissements labellisés va pouvoir faire vivre cette communauté et venir un petit peu appuyer ce qui existe déjà au niveau des CCSTI, qui est Nouvelle-Aquitaine CSTI, qui a déjà une structuration de longue date avec le soutien notamment de la région Nouvelle-Aquitaine. Pour continuer à présenter un petit peu le contexte bordelais et le contexte un peu de l'Université de Bordeaux, hein, désolé, je parle de ce que je connais le plus. On a vraiment une politique d'établissement qui s'est mise en place au cours des dernières années, notamment en termes de transition, alors qu'elle soit sociétale, environnementale, que sais-je. Donc un projet qui s'appelle le projet ACT, un institut des transitions. Et donc la contribution notamment de SAPS, c'est notamment de s'attacher à développer et à acculturer surtout en capacité. C'est vraiment un objectif fort, en capacité le citoyen finalement, lui donner les clés pour bien comprendre tous les défis qui se présentent à nous. Alors, ces défis, on les connaît tous, hein. Le plus immédiat, on a beaucoup parlé cet été, c'est l'enjeu climatique, mais tout ce qui est environnemental, tous les problématiques qui tournent autour de l'évolution de la société, on parle beaucoup d'anthropocène, hein, en ce moment, toutes les problématiques liées aux enjeux liés à la santé, à la nutrition, à l'énergie, etc., que sais-je. Donc, en fait, il faut que nous préparions nos citoyens de demain, notamment nos jeunes, à être vraiment des acteurs dans ce cadre-là, qui sont en capacité de comprendre effectivement ces enjeux. Finalement, qu'ils aient à minima le bagage de base pour pouvoir prendre des décisions, et notamment avec leur, on va dire, avec leur bulletin de vote, hein, mais aussi être des acteurs dans les associations. Et on voit que de plus en plus, on a des associations qui sont très actives. Donc, un minimum de culture scientifique. Et puis, bien évidemment, on a bien intégré ces objectifs dans notre projet. Alors, le projet s'appelle Sunset. Hein, et je vais arrêter sur le projet. Alors, les sciences participatives, bien sûr. Un élément qui est fondamental dans les réponses qu'on peut apporter à toutes ces problématiques, puisqu'il est question évidemment d'impliquer le public de manière à ce qu'il soit extrêmement actif. Et quoi de mieux pour embarquer dans une dynamique que d'avoir des citoyens actifs dans ces projets-là. Donc, notre ambition est d'encourager le développement de ces projets participatifs. Alors, on a un certain nombre de projets. Vous allez avoir des exemples. On a des collègues qui vont intervenir au cours de cette journée. Pour être très honnête, on n'a pas encore assez de projets participatifs. Raphaël œuvre avec le projet EcoDoc au niveau du site. Et c'est un très beau projet qui va nous permettre aussi, sur le site, à développer ses activités. Nous, on a vocation aussi à travailler sur des formations, sur de l'acculturation de nos personnels. On n'a pas assez de projets et beaucoup de nos collègues ne savent pas réellement comment gérer un projet de science participative. Et c'est très important d'aller aussi dans des aspects qui peuvent être des aspects techniques. Et on s'est associé à l'URFIS de Bordeaux pour développer justement ces formations. Et puis sur le petit message que j'essaie de passer à chaque fois aussi pour nos jeunes collègues, hein, les jeunes doctorants, les jeunes enseignants-chercheurs qui vont essayer de s'intégrer dans la recherche académique dans un contexte de plus en plus concurrentiel. On voit très bien que ces aspects participatifs, sans être ni cynique, peut-être un petit peu pragmatique, je pense que ce sont à la fois ce sont de très beaux projets à développer, et c'est pour eux, je pense, un moyen aussi de se distinguer un petit peu. Donc, bon, j'insiste pas trop là-dessus. Alors, on a évidemment, le thème connexe, c'est étroitement relié, c'est la communication scientifique. Alors, surtout son évolution en fonction de l'évolution du contexte et surtout de cette ouverture. Hein, ça a été bien calé dans ce que tu as mis comme introduction, enfin, ce que vous avez mis dans l'introduction de cette journée. Alors, évidemment, on parle de science ouverte, mais là, on n'est pas forcément sur l'acception du terme science ouverte vers nos communautés académiques, mais bien une ouverture au grand public. Et là, on voit l'évolution des moyens de communication, notamment par écrit. Alors, sur le site, et puis au national même, je prends l'exemple, deux exemples à des degrés et surtout des façons de fonctionner assez différentes. On a à l'écrit des communications type 2 conversation, où là, on a vraiment, je vais dire, une collaboration entre un journaliste et un scientifique, et puis peut-être encore plus grand public, des choses qui se développent comme curieux, où là, c'est plutôt des médiateurs qui interviennent. Donc, ce ne sont que deux exemples, mais on a tout un panel de communication écrite. Voilà. Et juste pour finir, évidemment, votre approche, le prisme que vous proposez, bon, je ne vais pas le paraphraser, je pense que tu attends à ce que j'arrête. Donc, la communication scientifique transformée à l'aune de l'ouverture science-société, c'est évident. et l'influence qu'ont les sciences et recherches participatives sur la nature, la forme et la diffusion des résultats. Donc voilà un beau programme, super programme, même bravo à l'équipe des Urfistes. Je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps. Je vous souhaite des discussions très fructueuses. J'espère évidemment une convivialité qui est inhérente à ce genre, et c'est important évidemment, à ce genre de manifestation. Profitez-en. Je ne pourrai malheureusement, et je vous prie de m'en excuser, rester toute la journée puisqu'on est en train d'ouvrir le festival Arts Sciences Société, qui est le festival FAX, et donc on commence notamment cet après-midi. Donc merci encore pour l'invitation et bon vent alors.
Merci beaucoup Philippe. Et hop, magie. Donc Raphaël Batz, co-responsable de l'Urfiste de Bordeaux. Je voulais donc, au nom de mes collègues du réseau Urfiste et puis notamment du comité scientifique, adresser quelques mots pour commencer cette journée. Alors d'abord des remerciements. Je crois qu'il faut qu'on remercie la MECA pour son accueil. Alors Géraldine, mais surtout Stéphane qui est caché derrière et qui a une infinie patience envers nous, et c'est rien de le dire, pour nous accompagner pour cette journée. Vous avez vu, on est très très bien installés, donc vraiment merci la MECA et on est très bien accompagnés derrière. Merci aussi à tout le réseau Urfiste, les collègues du comité scientifique, mais tout le monde, notamment à Valérie qui a préparé plein de choses depuis Rennes pour vous accueillir ce matin. Et puis merci à Mathilde Garnier, on l'a déjà dit, mais encore il faut le redire parce que Mathilde a fait énormément pour le réseau Urfiste là avec l'organisation de cette journée, et elle n'est pas une urfistienne à moitié. Enfin, maintenant je pense qu'on peut dire qu'elle est urfistienne. Avec tout ce travail là, je pense qu'on peut l'adopter dans notre équipe. Cette journée, vous savez pourquoi elle est, voilà, vous connaissez le thème, le thème a été rappelé à la fois par Marc et Philippe. Vous l'aurez compris, hein, dans cet engouement qu'il y a à l'heure actuelle sur les sciences et recherches participatives, qui fait la suite aussi d'un certain intérêt dans les recherches sur les sciences participatives. Alors, des recherches sur les recherches participatives, il y en a depuis les années 70, mais vraiment, c'est au tournant des années 2010, comme d'ailleurs sur la participation politique, que ça va se développer. Et là, aujourd'hui, on arrive à un nouveau moment où on va prendre le questionnement avec d'autres aspects, du fait du développement sciences et sociétés, du fait des renouvellements des modes de médiation, et puis du fait aussi d'un certain niveau de réflexion sur l'open science, les données, l'ouverture des données, etc., qui nous amène à repenser aussi les formes et les impacts des sciences et recherches participatives. Dans tout cet large réseau d'écriture, de communication, de conférences, alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, entre octobre et novembre, il y a 3-4 conférences, une par semaine sur les sciences participatives, c'est un peu de la folie. Nous, on s'est intéressé à ce qui nous a semblé être une sorte d'angle mort, qui était la question de la communication scientifique. Alors, ce terme, il est très large. Pour aujourd'hui, on l'a pris vraiment dans le sens de, je dirais, les publications, et notamment les publications académiques. Mais évidemment, on pourrait l'aborder sous plein d'autres axes dont on pourra parler, notamment pendant l'atelier. Mais là, pour, je dirais, les tables rondes de ce matin et de cet après-midi, on s'est orienté sur, du coup, trois axes que vous avez vus dans le programme. Le premier, c'est autour de l'écriture, c'est-à-dire qui écrit et puis qu'est-ce qu'on écrit avec les participants, avec les partenaires, les chercheurs dans cette situation-là, est-ce qu'ils écrivent la même chose que d'habitude ou pas? Qu'est-ce qu'on publie? Ce qui repose la question de qui écrit, mais plutôt cette fois-ci, du point de vue de l'autorat. Qu'est-ce que c'est un autorat dans les sciences participatives? Et puis, comment on peut publier ce type de production, peut-être, dans le contexte et de l'évaluation académique et des réseaux de revues académiques? Et puis, le dernier point qui s'appelle faire circuler. Vous aurez peut-être remarqué, au début, on l'avait appelé valoriser. Puis, on s'est rendu compte que, en fait, tout était de la valorisation. Puis, on s'est dit, bon, allez, hop, ça va être comme médiation. On va le mettre à part. On a mis faire circuler. Et donc, on est vraiment sur la circulation de ces productions, on va dire, de ces projets de recherche et sciences participatives, et comment on les dissémine, au gros, au niveau académique, mais au niveau aussi des participants, et puis même au-delà. Pour tout ça, on a des invités dont vous avez vu les noms et qu'on va recevoir tout à l'heure. Les collègues des urfistes vont jouer les rôles de modérateurs. Et puis, on finira par un temps d'atelier avec Malvina Artaud, qui est notre facilitatrice pour cet atelier et qui va nous accompagner pour élaborer des recommandations. Alors, c'est le moment où je vous présente le petit carnet qu'on vous a donné normalement. Ce petit carnet, l'idée, c'est de le remplir, si vous en êtes d'accord, au fil des présentations et de pouvoir prendre quelques notes. Donc, vous avez un côté où il y a écrit « écrire, publier, faire circuler » et c'est là où vous pouvez prendre des notes sur les interventions de la journée. Et puis, de l'autre côté, on l'utilisera pendant l'atelier, en fait. Voilà. Alors pourquoi cet atelier et pourquoi ce carnet ? Alors l'idée c'est d'élaborer ensemble des recommandations sur ces enjeux d'écriture, de publication, de circulation et d'une manière générale de la communication scientifique. Et ces recommandations, alors on ne sait pas encore exactement à la fin de l'atelier quelles formes elles auront, ce sur quoi on arrivera, et est-ce qu'on pourra en donner un aperçu déjà par, je ne sais pas moi, une publication sur le site web, etc. Ça, je ne peux pas vous le dire pour l'instant. On verra ce qu'on fait, d'accord ? On verra ce qu'on produit. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que ça va alimenter des réflexions pour la rédaction d'un ouvrage qui portera sur le thème, je vous le donne en mille, des sciences participatives et de la communication scientifique, sur lequel nous travaillons avec les collègues de l'URFIST, et pour lesquels nous aimerions que vous soyez des contributeurs, voilà, nommés d'ailleurs. C'est pour ça qu'on vous a demandé votre petit nom sur les documents. Et donc, on vous rappellera ça, évidemment, tout à l'heure, au moment de l'atelier. Tout ça pour dire que cette journée devrait déboucher, alors, d'une part, sur cet ouvrage, dont on espère qu'il pourra servir au-delà des personnes qui sont présentes et qui sont déjà très présentes, encore une fois, merci beaucoup pour votre intérêt pour cette journée. Et puis, on pourra aussi, ça intéressera donc d'autres personnes, mais on pourra aussi leur fournir des vidéos, puisque vous aurez peut-être remarqué qu'il y a une caméra, deux caméras, et derrière ces caméras, il y a Théo, que l'on remercie, et qui va enregistrer les présentations qu'on pourra diffuser et faire tourner aussi plus largement que dans notre équipe. Voilà, j'ai fini. Pour cette présentation, je vais donc peut-être maintenant tout simplement inviter les collègues de la première table ronde à venir on stage. Je vais appeler Émilie Coleman, Bastien Castagnerol et Agnès Vilches qui sont nos invités. Et puis Gabriel Galzo et Guillaume Cyr qui sont nos collègues urfistiens qui vont être les modérateurs de la journée et à qui je passe la parole. Merci.